Je poursuis encore l'étude ensemble sur le genre. Hein. Ce qui m'a poussé à vous parler de ça, c'est cette fameuse théorie du genre qui va être introduite dans les manuels scolaires à partir de la rentrée. Et très souvent, en tant qu'évangélique, nous savons ce que dit la Bible, mais nous ne savons pas toujours défendre nos points de vue, et surtout pas pour aux enfants, qui vont être enseignés d'une certaine manière, et comment leur donner les éléments de compréhension de la parole. Donc ça m'interpelle en tant que pasteur et en tant que responsable d'église. Et moi-même, j'étais donc obligé à rechercher qu'est-ce qui peut nous aider dans la compréhension. D'un côté, la théorie, vous savez ce que c'est qu'une théorie, hein, c'est pas quelque chose qui est prouvé. Une théorie doit être prouvée pour qu'elle puisse s'énoncer en loi, donc c'est pas une loi. Les gens qui annoncent des théories, c'est une pensée, comme chacun peut avoir une pensée qui lui traverse la tête, mais ça reste une pensée. Alors que nous avons la parole qui nous donne une révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est quoi la révélation? Oui, c'est une vérité qui vient de Dieu. Bien sûr, les gens qui rejettent Dieu, ils ne veulent pas reconnaître cette vérité, mais c'est la vérité que Dieu a établi et que nous pouvons prendre comme une réalité, comme quelque chose qui est vrai. Vous croyez à la vérité de Dieu? La vérité de la parole? Eh bien, la parole nous dit que le genre existe. Hein, et que si la théorie des hommes disent que le genre et la sexualité n'existent pas, qu'elle est la construction de la société, eh bien, considérez-la comme une théorie. Respectez les gens. Hein. On n'est pas là pour diffamer les gens. Ils sont dans les ténèbres, mais on ne va pas les accuser. On ne va pas les insulter. Hein. Comme j'ai vu dans certaines marches à Paris, des chrétiens qui insultaient la théorie, en particulier d'évolution. On n'a pas à insulter les gens. Hein. Il faut respecter les gens pour les amener à l'évangile. C'est pas en les dénigrant qu'on va les amener à l'évangile. Il faut simplement prier pour eux. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors la théorie du genre, elle introduit quoi? Elle introduit la notion de neutralité. C'est-à-dire que sur le passeport, sur vos cartes d'identité, enfin si la loi passe, hein, mais vous avez vu comment ils arrivent à faire passer les lois, il y aura marqué masculin, féminin, neutre. Donc vous pouvez mettre neutre, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est de faire adopter dans la loi française, mais je pense que cette théorie n'est pas uniquement française, hein, elle est un peu mondiale, elle passe dans tous les pays, ils veulent mettre le fait que vous êtes neutre, vous pouvez être neutre, vous choisissez votre sexe. Voilà. Alors concernant le sexe, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai un petit peu. J'ai pris un autre livre, hein, j'ai plusieurs livres qui sont un peu qui m'aident à comprendre ces choses. Donc le dernier livre en question, c'est celui d'Henri Blocher, hein, qui a écrit Révélation des origines quand il était plus jeune. Mais qui est toujours un best-seller dans le domaine de la Genèse, comment expliquer la Genèse. Et voilà ce qu'il dit dans son livre sur la sexualité. Vous savez que dans la Genèse, nous voyons dans le premier chapitre la création que Dieu a fait, hein, de l'homme et de la femme, du sexe. Et dans le chapitre premier, au verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». L'homme dans ce verset-là, c'est Adam. Hein. Le nom générique de l'homme, c'est Adam. Hein. Et le nom spécifique, c'est Ish. Ish, c'est dans la deuxième partie du verset. Donc, l'homme, Dieu créa l'homme, donc Adam, à son image, parce qu'Adam, c'est celui qui est tiré de la poussière. Hein, Adama, c'est la poussière, qui est tiré de la poussière, Adam. Il le créa à l'image de Dieu. Donc il créa Adam à l'image de Dieu. Et ensuite, après, dans la deuxième partie du verset, il dit « Homme et femme, Donc Ish et Isha, il les créa. Oui. Donc ça c'est le nom spécifique, le nom générique c'est Adam. Donc l'homme et la femme sont tirés de la poussière, hein, et ils retournent en poussière. L'homme Ish et la femme Isha. Donc vous voyez, Isha est tiré de l'homme, eh bien ils sont créés à l'image de Dieu. Donc toute la problématique de la compréhension de la sexualité, du genre, est de comprendre qu'est-ce que nous sommes en tant qu'image de Dieu. En quoi ressemblons-nous à Dieu ? Voyez-vous, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand on n'a pas bien compris cela, on a du mal à bien comprendre l'ensemble de la parole. Le nom générique de Isha, non, le nom générique c'est Adam, et le nom générique, le nom spécifique, excusez-moi, de Isha c'est Ève. Ève, hein, c'est le prénom, si vous voulez, hein, que Adam a donné à sa femme, qui est Ève, qui a été donnée non pas par Dieu, mais par Adam, qui est la mère de tous les vivants, qui est donnée dans Genèse 3. La ligne d'autorité, je voudrais reparler de la ligne d'autorité que nous voyons dans la Bible, c'est Dieu, Christ, et ensuite, la ligne d'autorité. Non, c'est Ish et Isha. Voilà. Parce qu'Adam, tous les deux sont Adam. Ish et Isha sont tous tirés de la terre. Hein. Donc c'est le nom générique, le nom spécifique, c'est Ish et Isha. Donc Dieu, Christ, l'homme, la femme. Ça, c'est le principe d'autorité. Mais hiérarchie, donc vous voyez, principe d'autorité, donc ça, c'est le principe d'autorité, qui est hiérarchique. Hein. Dieu, ensuite Christ, ensuite l'homme, ensuite la femme. Ce principe d'autorité ne veut pas dire infériorité. C'est tout là le problème, c'est qu'avec la chute, l'être humain qui est tombé dans la chute, donc dans la société que nous connaissons, a créé des principes de hiérarchiques de dominance. Hein. Mais dans la Bible, on ne voit pas que Dieu il domine sur Christ. Hein. C'est un principe d'interdépendance, mais qui n'est pas d'infériorité. Christ n'est pas inférieur à Dieu. Il s'est simplement donné à la croix pour la mission que Dieu lui a donnée. De la même manière, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Hein. Mais ça, ce sont des choses qui ont été développées dans le péché, dans la nature du péché. Cette ligne d'autorité, c'est simplement une ligne d'ordre, hein, d'ordre de structure. Vous savez que dans toute société, il faut une structure. Hein, dans toute, s'il n'y a pas de structure, c'est le chaos. Hein. Et donc, ça permet de structurer une société. Et le mot, cette structure que nous voyons dans la Bible, c'est que 15 fois sur 21, donc c'est quand même assez important, hein, donc ça c'est Henri Blocher qui dit ça, 15 fois sur 21, hein, donc c'est plus de la moitié, hein, dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme l'aide de l'homme. Voyez-vous ? Dieu est l'aide de l'homme. C'est quand même assez impressionnant de voir que Dieu nous aide. Dieu vous aide dans votre vie ? Hein ? Bon, donc voyez que la présentation de Dieu dans l'Ancien Testament en particulier, c'est qu'il aide l'homme. Donc la notion d'aide n'est pas une notion d'infériorité. Voyez-vous ? Et dans la ligne hiérarchique de la ligne d'autorité, c'est parce que Dieu est en haut qui n'aide pas. Voyez, il aide. Donc le mot aide, hein, puisqu'il a dit je ferai de ta femme une aide. Une aide, ça ne veut pas dire une serpillière. Hein, voyez-vous. Mais très souvent, c'est comme ça qu'on comprend l'aide. Hein, tu m'aides. Voilà. Or, c'est pas du tout dans la pensée de Dieu cette notion-là. Même si l'homme déchu l'a développé. Et donc le mot aide favoriserait davantage la femme que l'homme dans la notion hiérarchique, vous voyez. Si vous comprenez bien, tel que la révélation de la parole nous montre l'aide, qui est 15 fois sur 21, Dieu est l'aide de l'homme, ce mot aide favoriserait davantage la femme, donnerait une priorité à la femme. Si vous prenez 1 Timothée 2,13, vous connaissez bien ce passage qui est très controversé, hein, et qui est utilisé souvent par les églises, voire des pasteurs, pour laisser la femme dans l'infériorité, ce qui est une grossière erreur de compréhension de la Bible. Dans 1 Timothée 2,13, vous avez ce fameux passage qui est utilisé pour mettre la femme dans l'infériorité. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, c'est rendu coupable de transgression. » Vous connaissez ce fameux passage, hein ? Eh bien, Paul s'appuie sur la succession. Et vous ? Pour développer ce terme, il s'appuie sur la succession de la ligne d'autorité. Dieu, Christ, Ish, Isha. Hein, l'homme, la femme. Et là, il montre qu'un ordre régit le rapport des sexes. Hein. Le rapport des sexes, donc la femme, l'homme, hein, il y a un ordre. Voilà. Donc, l'homme et la femme. Il y a un ordre. Et inverser l'ordre, hein, c'est le mouvement féministe qui a développé ça, parce que les femmes ont eu trop souffert pendant des siècles de cette domination machiste, qu'ils ont voulu inverser les choses. Et vous savez, quand on veut inverser les choses, on ne se définit jamais par l'inversion de quelque chose, on se définit par nous-mêmes. La parole de Dieu définit les choses par elles-mêmes, par leur essence. Mais trop souvent, ceux qui veulent renverser quelque chose, ils se définissent par l'inverse. Et le féminisme se définit par l'inverse. Donc, ils inversent les choses. Et ils s'appuient là-dessus, en mouvement féministe, hein, par le rapport des sexes sous la notion d'une rébellion. Hein. Et c'est vrai aussi dans les milieux ésotériques, les milieux qui expliquent des choses cachées, hein, qui sont réservées à des initiés. Ils utilisent toujours l'inversion. Ils disent que c'est la femme qui est origine et c'est l'homme qui vient ensuite. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gnostiques. Les gnostiques, ils ont été combattus par Paul, par Pierre, par Jean, tous les évangélistes que vous avez ici au 1er siècle. Et c'est ce que Paul fait ici, dans ce passage d'un Timothée. Il dit que j'interdis à la femme d'enseigner l'inverse de ce que dit la parole. Parce que tous les mouvements féministes et ésotériques, ils disent que l'ordre, c'est d'abord la femme et l'homme ensuite. En ça, ils s'appuient simplement sur le passage de Genèse, hein, qui dit que Dieu a endormi l'homme, il a tiré la côte du côté la femme, et c'est la femme qui a réveillé l'homme après. Et où c'est tordu, mais c'est comme ça. Il s'appuie là-dessus. Donc c'est la femme qui est origine. Et donc dans l'ordre des sexes, c'est la femme d'abord et ensuite l'homme. Bon, passons sur ces erreurs doctrinales, mais qui sont utilisées pour convaincre les gens qui les suivent. Donc l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, j'interdis, je ne permets pas à la femme d'enseigner l'inverse de la parole. C'est-à-dire de dire que la femme est origine de l'homme. Et c'est tout simplement ça. Donc on ne va pas utiliser, nous, dans les églises, des choses qui sont controversées par l'apôtre Paul et aussi les autres apôtres. Nous utilisons l'enseignement de la parole, et c'est ce que dit... Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Voilà. Donc c'est le rapport des sexes qui est dans un rapport d'autorité, pas d'autoritarisme. Donc la femme et l'homme est origine. Le diable, il sait cela. Regardez dans Ésaïe, chapitre 14, verset 13. Bien sûr, c'est le diable qui, derrière, hein, utilise tous ces faux enseignements. Il est expert en faux enseignements. Et quand on ne le sait pas, eh bien, on peut être séduit par ces faux enseignements qui sont souvent, d'ailleurs, très séducteurs. Donc Ésaïe, chapitre 14, verset 13. « Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre au plus profond du nord. Voyez-vous, le diable a toujours voulu être au-dessus de Dieu. Voyez-vous, le diable veut être positionné au-dessus. Voilà. Et c'est ce péché d'orgueil, hein, qui nous menace chacun, hein, mais qui a menacé le diable, qui veut être au-dessus. Et donc, pour être au-dessus, eh bien, il transforme les choses, hein, et il raconte eh bien des bêtises. Et voilà, c'est la femme qui est dans l'ordre de la ligne d'autorité avant l'homme. Voilà ce que Blocher dit, hein, et je vous laisse avec ça. Dans la relation des sexes, le principe d'autorité, donc donner des ordres, est de représenter Dieu dans sa capacité à présider les choses et se trouve du côté masculin. Donc le genre masculin, hein, que Dieu a créé, qui est en Dieu, c'est de représenter Dieu mieux que la femme dans cette transcendance, dans cette notion de hiérarchie dans l'ordre spirituel, de la distanciation objective, c'est-à-dire le fait d'être plus objectif, c'est le côté masculin. C'est dans la domination, non pas la domination mauvaise, hein, mais la domination de la gestion de la création que Dieu a donnée à l'homme, dans le travail et dans l'œuvre créatrice. Le côté féminin, le genre féminin, c'est la représentation de l'humanité dans le rapport à Dieu. D'un côté, c'est la représentation de Dieu par rapport à l'humanité. Donc ça, c'est le côté masculin. Et le côté féminin, c'est la représentation de l'humanité par rapport à Dieu. Vous voyez la notion de réponse, hein, la notion d'initiation et la notion de réponse. Vous voyez ce retour entre Dieu et l'homme. Tout être humain doit accepter une situation féminine. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que l'Église est représentée comme étant féminin. Après, l'apôtre Paul prend l'exemple de Christ et de l'Église comme une épouse. L'Église est une épouse. Donc, tout être humain, y compris les hommes que nous sommes dans une situation féminine par rapport à Dieu. Par exemple, il y a des termes comme « être de lui et pour lui », « recevoir et porter la semence de la parole », « recevoir et porter le nom qu'il nous donne ». La foi, l'espérance et l'amour sont un parfum du féminin. Donc voyez, la balance entre le masculin et le féminin au niveau des genres n'est pas du tout inégale. Chacun vit une dimension de la part humaine, être dans l'image de Dieu. L'image de Dieu est une image masculine et féminine. Voilà, alors j'aimerais revenir sur ce que j'ai enseigné la semaine dernière pour compléter cela. Pour nous dire la chose suivante, c'est que notre image, elle se trouve dans la composition de l'esprit, de l'âme et du corps, hein, ce que vous avez signalé aussi la semaine dernière. Nous sommes, nous, esprit, âme et corps. Okay, et en cela, nous sommes l'image de Dieu. L'esprit, le départ de l'esprit, c'est la vie. Okay, nous savons que il n'y a que en Dieu qu'il y a la vie. Tous les humains, les plus grands scientifiques, cherchent à découvrir la vie. Mais ce qu'ils cherchent, c'est quoi ? C'est est-ce qu'il y a la vie sur Mars ou est-ce qu'il y a la vie ailleurs ? Simplement par curiosité, pour dire, voilà, vous voyez, la nature elle-même, elle produit la vie. En fait, même s'ils la trouvent, ce qui est loin d'être le cas, parce qu'il faut des conditions tellement exceptionnelles, et on sait que la Terre, en tout cas dans le système solaire, il n'y a que la Terre qui présente ces caractéristiques, il faudrait trouver la même chose ailleurs. Et c'est tellement complexe, il y a des scientifiques qui ont fait des études mathématiques, que c'est quasiment des milliards de statistiques qu'il faudrait réaliser pour le trouver. Mais admettons qu'il le trouve, pourquoi pas ? Dieu est capable de faire la vie n'importe où, puisqu'il est la vie lui-même, il est la vie éternelle. Ça ne prouverait pas la vie. L'origine de la vie, c'est quoi ? Il ne la trouverait pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Donc de toute façon, c'est un principe qu'on appelle en théologie ontologique, c'est-à-dire le principe de ce qui existe en soi. Ce qui existe en soi, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de la création. C'est une créature. C'est des choses qui sont créées. Donc, de toute façon, l'homme n'arrivera jamais à prouver quoi que ce soit, puisqu'il dépend de Dieu. Et Dieu, c'est la vie. Amen. Et non seulement la vie, mais la vie éternelle. Amen. Et c'est pourquoi qu'il est dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous avez la vie éternelle ? Hein ? Nous avons la vie tout court, mais nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Donc la vie, si vous voulez, est au centre de ce qui existe et qui peut produire la vie, qui peut produire le mouvement et l'être, etc. Donc ça, c'est l'esprit. Voyez-vous ? Et en Dieu, il y a la vie. Il est la vie. Et c'est pourquoi il peut donner la vie, ou la reprendre, ou faire ce qu'il veut de la vie. Donc ça, c'est la notion de base. Ensuite, après la vie, eh bien, il y a l'âme. L'âme, c'est la capacité de prendre des décisions, d'exister. Est-ce que pour vous, les animaux, ils ont une âme ? C'est la fameuse réflexion de tous les chercheurs, philosophes de tous les temps. Est-ce que les animaux ont une âme ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle âme, c'est tout le gros problème. Pardon ? Oui, non, mais je vais pas trop rentrer dans des études. Est-ce que pour vous, les animaux ont une âme ? C'est oui, non, vous savez pas. Enfin, pardon ? Je dirais oui. Je dis ça parce que quand vous avez des enfants, des fois ils perdent un animal, vous savez pas quoi lui répondre. Ah oui, l'animal il est parti avec le Seigneur. Enfin bon, il y a ce qu'on dit pour les consoler, puis il y a ce qu'on dit pour ce qu'on pense, on sait pas trop. Pour faire les choses simples, l'âme bien sûr, les animaux ont une âme, mais c'est pas peut-être la même âme que l'homme qui a reçu Dieu. Pourquoi ? Parce que quand il y a la vie, il faut organiser la vie. Okay ? C'est l'organisation de la vie. Et pour organiser la vie, il faut un certain nombre de choses. Et comme vous l'avez vu, il faut un cerveau. Donc si je dessine, je suis pas très bien dans le cerveau, mais si on dessine un cerveau, vous savez qu'il y a deux lobes dans un cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, et puis ensuite toutes les ramifications qui nous permettent d'agir sur notre corps. Donc ça, c'est quelque chose qui fait fonctionner, enfin, qui est notre âme. Parce que, une fois de plus, je signale que l'esprit, c'est la vie. Ceux qui ne dissocient pas l'âme de l'esprit, ils mettent la vie dans l'âme, peu importe, mais c'est plus facile si on distingue les trois, c'est ce qu'on fait dans le torrent qui purifie, l'esprit, l'âme et le corps. Mais si vous prenez les deux cerveaux, au niveau de l'homme, je reste au niveau de l'homme, puisque tout à l'heure on a dit Dieu a créé Adam, ensuite a créé Ish, ensuite il a créé Isha, mais c'est tous des Adams qui sont issus de la poussière et qui ont reçu la vie, l'insufflation de la vie. Donc, nous avons tous un cerveau, vous avez tous un cerveau, et ce cerveau représente le fonctionnement de Dieu. Dieu fonctionne aussi avec un cerveau. Vous croyez que Dieu a un cerveau ? Mais c'est un cerveau qui est infiniment plus développé que le nôtre, vous ne pouvez même pas l'imaginer, mais il traite des informations. Le cerveau traite des informations, c'est tout ce qu'il fait. Et bien sûr, derrière, il peut le traiter de manière indéterminée et infinie, la vie éternelle, ou il peut s'arrêter. Sachez qu'on aura un cerveau quand on sera avec le Seigneur dans l'éternité. Il ne sera pas privé de cervelle. Donc, dans ces deux cas-là, c'est dans ce cerveau-là, eh bien, ça c'est l'âme. Où d'un côté, on a effectivement notre intelligence qui permet de traiter des informations pour les analyser, et de l'autre côté, des émotions qui nous permettent de recevoir, de percevoir les choses sans les analyser, mais on les perçoit. Une intuition, on reçoit les choses. Et ensuite, après, il y a la volonté qui permet de mettre en action ce que nous avons compris pour agir. Je vous l'ai déjà dit, Dieu a créé l'homme pour agir. Il n'a pas créé l'homme pour rester sans rien faire. Ça, ça c'est pas possible. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est le travail, c'est l'activité. Le précieux trésor. Sachez que c'est un trésor. C'est pour ça que c'est vrai que quelqu'un qui est inactif, eh bien, il perd le sens de son identité, le sens de son existence. Enfin, il rentre dans beaucoup de problèmes qui vont toucher tôt ou tard à sa personnalité. Et l'âme, et alors, si on a vu que l'esprit a le pouvoir de donner la vie, l'âme a le pouvoir de quoi ? Et le siège de quoi, l'âme ? C'est le siège de la liberté, la fameuse liberté, égalité, fraternité, la liberté. Allô ? Nous apprenons quelque chose ? Bonhoeffer, vous connaissez Bonhoeffer ? Non, c'est celui qui a résisté à Hitler et qui a été tué, torturé, parce qu'il n'a pas lâché prise. C'est un évangélique qui a été très très courageux. Et Bonhoeffer dit quelque chose qui est assez important pour nous aujourd'hui, sur la liberté. Et je voudrais vous lire sa citation, si je la retrouve, dans mes notes, quelque part. La liberté a toujours été une réflexion par tous les philosophes de tout temps. Ils sont divisés d'ailleurs. Il y en a qui disent, ben non, l'homme n'est pas libre. Pourquoi ? Parce qu'il est déterminé. Ouais, il est déterminé par son passé, déterminé par ses gènes, il est déterminé par son hérédité, il est déterminé, donc il n'est pas libre. Okay. Et il y en a d'autres qui disent, non, il est libre, et puis ils se battent sans arrêt, ils vont se battre jusqu'à la fin, tant qu'ils n'ont pas compris ce que dit la Bible sur la liberté. Voilà ce que dit Bonhoeffer, je ne l'ai toujours pas trouvé, alors je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà. Bonhoeffer dira, la vie est morte. Donc la vie, elle est morte, au fond, tant que lui manque la liberté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On a la vie, ok ? Pardon ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Un ordinateur, c'est quelque chose qui vit, enfin qui a une existence, quoi. Hein, pardon, qui fonctionne, voilà. Mais c'est mort. C'est mort parce qu'un ordinateur, il ne va pas d'un seul coup se lever, faire un discours, prendre des initiatives, etc. Vous voyez, donc c'est une vie qui est morte. C'est quelque chose qui ne produit pas quelque chose de créateur. En fait, il va faire ce que le programmeur lui a mis dans la machine. Donc il y a une certaine vie. Mais cette vie, elle est morte s'il n'y a pas de liberté. Et la liberté, c'est le thème de base de toutes les sociétés, et en particulier la nôtre, qui est basée sur liberté, égalité, fraternité. La liberté, être libre. Libre. Alors, la Bible parle de quel type de liberté ? Parce que la liberté, c'est un principe général de toute l'humanité, mais la Bible parle d'une liberté particulière. Et là, si vous avez compris ça, vous avez mieux compris la question du genre. Alors, si vous ne trouvez pas, je vais vous mettre sur la piste. Non, il y a une idée qui dit. Pardon ? La liberté en Jésus, oui. Ça sera le fin mot de l'histoire, tout à fait. Pardon ? Ouais ? Ouais, c'est pas tout à fait encore ce que j'attends. On a libre, oui. Ouais. On verra ça tout à l'heure. C'est en Jésus qu'on est vraiment libre. Mais en fait, c'est une liberté particulière, c'est Genèse 2. La vie, c'est Genèse 1, si vous voulez, c'est Genèse 1, 2, 3. Il suffit de suivre ça et vous comprenez l'image que nous sommes, l'image de Dieu. Voilà. Genèse 1, c'est la vie. Dieu crée la vie. Okay, il souffle dans les narines, il donne la vie aux poissons et tout ça, et ensuite après l'homme qui est au-dessus, qui a un cerveau plus développé, qui a une âme qui devient libre. Mais Genèse 2, elle parle d'une liberté particulière. Qu'est-ce qui se trouve dans Genèse 2 ? Il se trouve un arbre. Vous connaissez les arbres ? L'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. Hein, c'est Jésus qui on retrouve dans l'Apocalypse. Okay ? Voilà. Donc, l'arbre, pourquoi est-ce que Dieu a placé un arbre dans ce jardin ? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi a-t-il placé un arbre ? Oui ? Alors, comment est-ce qu'on peut résumer ça en un terme qui est simple à comprendre ? La liberté de pécher ? Liberté de choisir ? Alors, quand les chrétiens ne comprennent pas ça, vous voyez, on a des chrétiens naïfs, ce que j'appelle des chrétiens naïfs. Et il y a beaucoup d'évangéliques, je ne donnerai pas de chiffres, qui sont naïfs, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Je voudrais que vous le compreniez. C'est une liberté responsable. C'est la notion de responsabilité, voyez-vous, qui est particulière à l'homme, qui n'est pas donnée aux animaux. Un animal, si vous bouffe un mollet, vous n'allez pas le condamner, vous n'allez pas le mettre devant un jugement en disant pourquoi tu as bouffé le mollet de quelqu'un, etc. Vous allez avoir des avocats, vous demander des explications, etc. Vous avez déjà vu ça? Non? Oui. Un dessin animé, voilà, dans les bisounours. Hein? Mais sinon, c'est la liberté responsable. Voyez-vous, la véritable, c'est ce que dit Bonhoeffer. La véritable vie, c'est quand il y a une liberté responsable. Parce que quand vous êtes responsable, vous êtes autonome. C'est-à-dire vous répondez de ses actes. Responsable, ça veut dire répondre de ses actes. Je fais un acte, est-ce que je suis responsable ou pas? Non, c'est pas moi, c'est le voisin. Ah bon? C'est pas moi, c'est ma mère. C'est pas moi, c'est mon père. C'est pas moi, c'est parce que je suis né comme ça. C'est pas moi parce que, voilà. Ça, c'est irresponsable. Or, la notion de responsabilité dans la liberté est capitale pour bien comprendre la notion de genre après et comment on gère le genre. Vous voyez? Ça, c'est très, 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 très important. Donc, l'âme, c'est ce qui nous permet d'agir, puisque là, il y a la volonté. Qui pousse à l'action. Et nous voyons donc le troisième domaine où nous sommes. Est-ce que vous pensez que Dieu est responsable? Voilà. Donc vous voyez, nous sommes à l'image de Dieu dans la notion de liberté responsable. Et ensuite, après, nous avons le corps qui est l'extérieur. Nous avons l'âme et le corps. Et le corps, il agit, mais il agit à partir de l'âme. À partir des informations qui ont été traitées en nous. Okay? Et qu'est-ce que produit le corps? Si on a l'esprit qui est la vie, l'âme qui est la liberté responsable, le corps, qu'est-ce qu'il est supposé faire dans l'image de Dieu, dans l'image que Dieu a de nous et pour lequel il nous a créés? Oui, mais l'action comment? Là, il faut la qualifier, l'action. Là, on a qualifié la vie, la liberté et le corps, comment est-ce qu'il devrait agir en tant qu'image de Dieu, l'homme image de Dieu? Une action de quoi? Qualifie l'action. Dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu de créer l'homme, est-ce qu'il voulait que l'homme il fasse n'importe quoi? Est-ce qu'il voulait que l'homme il traite son voisin n'importe comment? Donc comment est-ce qu'on peut qualifier cette action que Dieu a voulu pour l'homme? Respect. Oui, alors on a déjà. La responsabilité se trouve déjà au niveau de l'âme. Le glorifier. C'est. Jacques, vous connaissez l'épître de Jacques? Il parle de quoi? Il parle de quoi l'épître de Jacques? Pardon? Pour la sagesse. L'épître de Jacques, c'est la sagesse. Okay? C'est la notion de sagesse. Dieu veut que nous soyons sages. Pas selon la sagesse du monde. Hein, mais une sagesse que le corps produise de la sagesse, c'est une sagesse non pas vous voyez, les hommes les sages du monde ils produisent une sagesse spéculative, c'est-à-dire ils discutent sur la sagesse, hein, mais c'est pas une sagesse salutaire, hein, ça il faut que ce soit une sagesse qui produise des choses qui sont bonnes, qui est salutaire. Donc une vie éternelle, liberté responsable, une sagesse salutaire. Tous les hommes sont préoccupés par la sagesse, tous. Tous ceux qui veulent un petit peu comprendre la vie, ils vont se faire happer, en particulier par la franc-maçonnerie qui dit, attendez, on va vous apprendre la sagesse. Ma sœur, qui était mariée, elle a divorcé, mais son ex-mari, elle le voit toujours, qui est au dernier niveau de la franc-maçonnerie, il dit, c'est incroyable, il parle que de la sagesse, et en fait, c'est nul, complètement nul. Quand je les sers à table, là, c'est comme si je n'existais pas. Et vous, il n'y a pas de sagesse pratique, c'est une sagesse spéculative. Ils ont que des problèmes entre eux, entre les hommes entre eux, hein, pire que les femmes, d'ailleurs, parce qu'ils cherchent des poux à tout le monde, et ils prétendent avoir la sagesse. C'est complètement nul. Pourquoi ? Parce que la sagesse ne vient pas de l'intellect, elle vient d'une réaction de notre être. C'est la vie de l'esprit, de l'intérieur, qui nous donne une liberté, qui nous donne la sagesse. Et quand ces choses ne sont pas en place, eh bien ça nous donne un autre. Donc si vous voulez, c'est le fameux feu que vous avez fait dans les faux tricolores, hein, bleu, blanc, rouge. Non, pas bleu, blanc, rouge, que genre. Rouge, orange, vert. Allez, les feux de croisement dans le torrent qui purifie. Donc vous avez l'esprit, l'âme, le corps. Dans la perspective de Dieu, on a la vie, on a la liberté responsable, on a la sagesse pratique, et dans la perspective de la chute, donc de l'homme qui a chuté, parce que dans Genèse 3, vous avez la chute. Adam et Ève, ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit, donc en fait, ils ont chuté. Et qu'est-ce que ça produit au niveau de l'esprit ? Ben, ça produit la mort. Hein ? Nous sommes naturellement morts. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'existe pas. Ça veut dire que l'esprit n'est pas en relation avec Dieu. Il dit « Connaissez-moi, parce que je suis le prince de la vie. » Hein ? Nous, nous sommes amenés à connaître le prince de la vie. Et donc, naturellement, notre esprit est mort. Et il s'éveille par la foi. Lorsque l'évangile est prêché, lorsque l'évangile est reçu, eh bien notre esprit s'éveille à la foi et nous sommes en contact avec la vie. Mais sinon, nous sommes morts. C'est-à-dire que nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous n'avons pas la vie. Okay ? Ensuite, la liberté responsable, elle amène à quoi ? Ben, une liberté irresponsable. C'est une liberté orgueilleuse. Une liberté qui comme là, mariage pour tous, voyez, c'est la liberté. Parce qu'on veut que tout le monde ait la même chose, ça part d'une idée, ça part d'une théorie, ça part du principe, tout ça. Mais c'est une liberté irresponsable. Parce que ce qu'ils vont produire, ce que la société va produire, ça sera catastrophique, puisque c'est contraire à ce que Dieu a voulu pour l'homme. Vous voyez, donc c'est une liberté, ok ? L'homme fait ce qu'il veut, mais irresponsable. Et c'est une sagesse, ben, c'est une sagesse qui n'est pas du tout j'ai mis sagesse salutaire. C'est une sagesse qui conduit à tous les désordres. Et quel est le livre qui parle le plus de la sagesse ? Pardon ? Oui, et dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er. Lisez là, on n'a pas le temps ce matin, lisez le chapitre 1 et le chapitre 2. Paul parle que de la sagesse. Parce qu'il était chez les Grecs, comme nous, les Français qui ont été des Grecs, dans une recherche de sagesse. Et de quoi l'apôtre Paul, il taxe la sagesse du monde ? Folie. La sagesse, c'est ce que l'homme prétend être le plus au sommet de sa réflexion. Et pour Dieu, c'est la folie. Et le seul sage, le seul qui porte la véritable sagesse, c'est qui ? C'est Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il est dit que Jésus est devenu notre sagesse. Amen. Il est devenu notre sagesse. Parce que si vous regardez la vie de Jésus, bien sûr il avait la vie, il avait une liberté responsable, et il avait une sagesse salutaire. Amen. C'est grâce à cette sagesse, grâce à ce qu'il a fait, aux fruits qu'il a portés, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, parce qu'il est allé jusqu'au bout de la croix, c'était très très difficile pour lui, mais il l'a fait parce qu'il a manifesté la véritable sagesse de Dieu. Voyez-vous, ça c'est un véritable modèle pour nous, Jésus-Christ. Mais jamais nous ne pourrons l'atteindre. C'est simplement un modèle qui nous permet de voir comment Dieu a imaginer l'homme à l'image de Dieu. Vous me suivez ? Alors je vais revenir. Alors je vais rester sur ce schéma-là pour vous reprendre l'enseignement de dimanche dernier. Ici, vous avez, si vous faites un triangle comme ça. La Trinité. Alors la Trinité, là c'est un autre livre qui est celui de Christian Schwartz. Donc Christian Schwartz, il dirige l'Institut de recherche pour le développement de l'Église. Ses ouvrages sont consacrés à la théorie et la pratique de la croissance de l'Église. Au niveau mondial, il a des banques de données, des ordinateurs qui gèrent toutes les données pour voir quelles sont les églises qui sont en croissance et celles qui ne le sont pas. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Dans mes séminaires, j'ai constaté qu'une meilleure compréhension de la Trinité nous aide non seulement à nous faire une idée plus juste de Dieu, mais également à vivre une nouvelle expérience de Dieu. C'est une meilleure compréhension qui nous permet de découvrir nos points forts, nos limites, nos rêves, nos peurs, et explique de manière étonnamment simple les divisions qui paralysent l'Église. Et comment utiliser l'énergie gaspillée dans ces querelles pour initier un processus efficace de changement. Si nous comprenons la Trinité, comment Dieu fonctionne, eh bien nous comprenons comment nous on fonctionne, comment un couple est supposé fonctionner. Nous comprenons comment une église est supposée fonctionner. Nous comprenons comment une union d'églises est supposée fonctionner. Pourquoi ? Parce que le modèle trinitaire est le modèle parfait. On ne pourra jamais atteindre. Mais moi, je préfère suivre le modèle trinitaire plutôt que celui que le monde me propose. Hello ? Vous voyez, déjà, le monde, il se plante complètement. Dans les feux tricolores, il inverse les choses et voilà ce que ça produit. Alors que dans le modèle de Dieu, eh bien, nous avons la vie, la liberté, et nous avons la sagesse. Donc, dans ce modèle-là, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Les théologiens ont inventé ce terme Trinité, qui n'existe pas dans la Bible, mais ce sont des révélations de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans ses manifestations. Ceci étant, si vous êtes rationaliste, et vous divisez, vous disséquez les choses, vous ne pourrez pas comprendre. Parce que on ne peut pas dire Dieu est un et il est trois personnes en même temps. Donc quelque chose qui ne va pas. Donc il faut résoudre ce problème, et ce problème, c'est tout simple. C'est que, en fait, le mot personne, bon, qui est un mot chez les théologiens qui est un peu plus complexe que personne, qui est l'hypostase, mais l'idée que ces personnes sont utilisées, c'est pour montrer d'abord qu'il peut y avoir une relation à l'intérieur de la Trinité. Et la notion de personne ne peut s'utiliser comme personne que dans la relation les uns avec les autres. Alors je vais vous expliquer. Ce qui est important au niveau de l'âme, par exemple, bon, la vie, elle est toujours présente au niveau de Dieu, mais au niveau de l'âme, en fait, il faut comprendre comment l'âme fonctionne en Dieu. Enfin, ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire la vie. Elle fonctionne dans les relations à l'intérieur de la Trinité. Une explication. Entre le Père et le Fils, qui est ce domaine-là, qui est le domaine des émotions, si vous voulez, il y a la manifestation de l'amour, de la compassion, la tendresse, de cette manifestation de sa grâce. Qui connaît Jean 3,16? Vous pouvez me le citer? Car Dieu... Alors on le reprend. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Stop ! Donner. C'est quoi donner ? C'est une manifestation de quoi donner ? L'amour. L'amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour. C'est le côté affectif, c'est le côté féminin. C'est le côté de la réponse. Okay ? Dieu a donné. Donc voyez-vous, là, ici, dans ce domaine de l'âme... La manifestation de la vie de Dieu, c'est la relation Père-Fils qui est la capacité de manifester l'amour. Amen. Dans un couple, là je ne suis pas en train de faire un séminaire, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si dans un couple ici vous mettez Christ, vous mettez ici le mari, et vous mettez ici l'épouse, mon schéma commence à être un peu rempli là, excusez-moi, je ne suis pas très bon pédagogue. Il faudrait que je change de page et tout ça, mais on peut le faire avec des PowerPoint aussi. Si vous mettez ici le Christ, parce que ça c'est le mystère du couple dans Éphésiens 5, que Paul déclare. Et c'est sur le même principe, parce que c'est le principe du fonctionnement de la Trinité. Christ, le mari et l'épouse. Entre Christ et l'épouse, eh bien, il doit y avoir cette capacité féminine à manifester cet amour. C'est une capacité féminine qui est donnée particulièrement à l'épouse. C'est un don qui est donné. Vous le voyez très bien quand les femmes s'expriment, elles sont beaucoup plus dans le détail, dans l'émotion, dans les choses qu'elles ressentent, et ça donne une richesse qui n'a rien à voir avec le côté masculin qui est très analytique, très sec, très directif, etc. C'est le cas qu'on remarque entre le mari et Christ. C'est pour ça que dans le mariage, c'est la corde à trois brins. Il faut absolument que Christ soit présent, sinon le mariage ne peut pas être vécu dans la plénitude de l'image de Dieu. Mais pour revenir en arrière sur la Trinité, là vous avez l'amour qui se manifeste entre le Père et le Fils, et entre le Père et l'Esprit. Qu'est-ce qui se manifeste entre le Père et l'Esprit? Quelle est la manifestation particulière qui est produite entre le Père et l'Esprit? Là, vous êtes un petit peu plus sec. Pardon ? La vie. La vie, elle existe de toute manière au centre de la Trinité. C'est le principe même de Dieu qui est la vie. Eh bien, là, je n'ai pas le temps, je ne fais pas de séminaire, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais si vous regardez bien la parole de Dieu, c'est un peu plus difficile à trouver que Jean 3,16. Mais vous verrez qu'entre Dieu et l'Esprit, eh bien, Dieu développe le plan d'amour, le plan de rédemption. Il développe la stratégie de rédemption. Il développe la compréhension de ce qu'il faut faire pour, par exemple, sauver l'humanité. Ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu se réunit en conseil. Il se réunit Père, Fils, Esprit. Et ce qu'on appelle le plan de rédemption, c'est que Christ, à un moment donné, a reçu la mission d'aller à la croix. Mais ça a été élaboré dans une intelligence. Pourquoi ? Parce que c'est la notion de justice. Ici, nous avons la notion de justice. Et moi, je dis toujours, l'exemple de quelqu'un qui l'a fait avant moi, c'est que Dieu... Alors, j'ai pas de pièce. Enfin, imaginez, j'ai une pièce, j'en ai pas. Une pièce. Qu'est-ce qu'il y a sur une pièce ? Ouais, il y a deux faces. Pile et face. Il y a deux faces. Mais c'est la même pièce. C'est une pièce. Pile et face. Et pour comprendre Dieu, comment il est, c'est que d'un côté, il est amour, et de l'autre côté, il est justice. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Dieu est amour, il est justice. Jésus n'aurait jamais eu besoin d'aller à la croix s'il n'y avait pas une soif, un besoin de justice de la part de Dieu. Et vous savez, au fond de chacun de nous, chacun d'être humain, il y a la notion de justice. Et particulièrement chez les Français qui veulent que la justice soit exercée. Eh bien, parce que c'est une caractéristique de Dieu. Dieu, il aime la justice et il ne laisse pas passer les choses. C'est pour ça que si vous êtes dans une difficulté en ce moment, injuste, ben confiez-vous en Dieu. Parce que Dieu est juste et il exerce la justice. Il exerce le droit. Et dans Ésaïe, vous avez ces magnifiques passages. Je ne sais plus si c'est dans Ésaïe 13. Non, c'est pas Ésaïe 13, je dis des bêtises. Merci beaucoup. C'est Ésaïe 47, je crois. Où Dieu parle de cette notion de justice, mais vous savez qu'il y a énormément de passages, et toute la Bible en est remplie, où Dieu exerce le droit et la justice. Et c'est à cause de la justice, eh bien, que Jésus a dû mourir et que Dieu a donné son Fils, parce qu'il n'y avait pas d'homme qui soit assez juste pour donner sa vie en rançon pour nous tous. Donc nous avons deux pôles, nous avons un pôle justice et un pôle amour. Et ensuite, après, bien sûr, nous avons l'action conjointe du Fils et de l'Esprit qui donne eh bien, une action des opérations. Alors maintenant, c'est ça qui écrit plus. On appelle ça les opérations du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de la vie et de la puissance de Dieu. La Pentecôte. Jésus a dit, je vous enverrai mon esprit. Voyez-vous ? Jésus a fait tout ce qu'il fallait en tant qu'être humain sur la terre. Il a montré l'exemple. Il a donné sa vie. Il est monté à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et ensuite, après, il a dit, je vous donnerai mon esprit pour que vous aussi, vous puissiez me suivre et marcher comme moi. Amen. Voyez-vous cette action conjointe entre le Fils et l'Esprit. Et l'Esprit ne fera rien sans le Fils. Parce que l'Esprit nous révèle les paroles du Fils. Donc voyez, on pourrait continuer cette démonstration de la parole, que vous avez ici une communication sans arrêt entre les trois personnes de la Trinité. Et ce qui est important dans l'âme, c'est de voir la communication. C'est pour ça dans le couple, si je veux faire des raccourcis un peu rapides, dans le couple. S'il n'y a pas Christ dans le couple, Christ qui est au centre, enfin qui est au centre, qui est même en haut, hein, qui lui dirige le couple. Si la femme n'est pas en relation avec Christ, elle ne peut pas manifester réellement l'amour, la compassion et la tendresse. Elle va exercer du jugement, elle va exercer toutes sortes de choses, qui d'ailleurs est souvent le problème des démarrages de couple, où on juge l'autre parce qu'on veut qu'il change, qu'il soit comme moi et tout ça. C'est le problème de l'altérité. Mais l'amour, quelque chose qui se donne. Et on ne peut recevoir véritablement l'amour qu'en Christ. Si le mari, il n'est pas en Christ, il ne peut pas exercer la justice. Je vous ai donné une définition de la masculinité réelle, celle qui est voulue par Dieu, c'est d'être et dire la vérité. Parce que la justice est basée sur la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, la vie. Et un être, un homme, qui doit manifester sa masculinité, eh bien, doit dire et être la vérité, être la justice. Et ça, il peut la recevoir en Christ, dans la relation avec Christ. Amen. Et le couple, ensuite, après, il est là pour agir. Il est là pas simplement pour lui-même. Il est là pour produire quelque chose, des fruits qui vont donner quelque chose à son entourage, à la société dans laquelle il est, à sa famille. Eh bien ça, ça se fait entre le mari et l'épouse, entre l'époux et l'épouse. Et ça, ça produit des opérations dans la mesure où chacun a cette masculinité, cette féminité telle que Dieu la veut, ils peuvent produire un bon fruit. Et qu'est-ce qu'il faut dans tout ça ? La communication. Je ne vois pas comment un couple peut fonctionner sans communiquer, sans communication. Une bonne communication est à la base d'un véritable couple. Moi, dans mon expérience pastorale, je vois beaucoup de choses et beaucoup de couples. Et je vois que là où il n'y a pas de communication, ben, ça ne peut pas marcher. En tout cas, il faut toujours régler des problèmes. Il faut toujours intervenir. Et bon, on est là pour ça. Hein, je ne me plains pas. Au contraire, j'ai appris en faisant ça sur ce que je vous enseigne. Et je tire de mes enseignements ce que je vous dis. Mais c'est que, en fait, en Dieu, il y a tout le temps une communication entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dans un bon couple qui marche, il y a toujours une communication entre le mari, l'épouse et Christ. La prière au centre du couple, etc. Si on veut aller plus loin, dans une église, c'est pareil. Dans une église, il faut qu'il y ait un pasteur qui représente le sens, hein, qui représente. Il faut un conseil qui manifeste effectivement toute la charge affective pour réaliser ces choses, et puis quelqu'un qui agit avec une équipe qui va vers des projets. Hein. Mais bon, ça c'est un peu trop raccourci, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Mais c'est tout le livre blanc que j'ai fait avec Foursquare, il est basé sur ces notions de communication à l'intérieur de la Trinité. Alors j'aimerais terminer simplement pour vous dire que la théorie du genre, elle est complètement à côté de cela. Elle produit la mort, liberté responsable, et de la sagesse qui produit du désordre dans la société. Si nous voulons continuer à élever nos enfants sur les principes bibliques, Il faut que nous apprenions déjà que nous-mêmes ce qu'est l'image de Dieu. En quoi suis-je image de Dieu? En quoi mon couple doit être image de Dieu? En quoi mon église doit être image de Dieu? Et vous, toutes ces choses-là sont le reflet d'une bonne communication, comme le fait dans les personnes de la Trinité. Et nous pouvons nous inspirer de toute la parole pour nous aider à développer une liberté responsable et une sagesse salutaire. C'est l'enseignement de Jacques, c'est l'enseignement de l'Ecclésiaste, c'est l'enseignement de Salomon. Mais voyez, lui-même, Salomon n'a pas pu vivre son enseignement de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, eh bien, si nous ne sommes pas en Christ, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a donné Christ, qui est le troisième brin de nos relations, entre le féminin, le masculin, qui est basé sur la sexualité ensuite, mais qui est simplement un produit. Le féminin masculin se trouve en Dieu. Le sexe, c'est quelque chose qui se trouve dans la création et qui nous est donné pour avoir un vis-à-vis. Dieu nous donne un vis-à-vis. Non pas quelqu'un qui est inférieur ou supérieur, mais quelqu'un avec qui on peut communiquer. Et je vous encourage vraiment à communiquer, peut-être cet été, à prendre du temps, à communiquer et dire ce que vous pensez. Vous voyez, moi au départ, comme j'étais enseigné, enfin éduqué dans une sorte de logique rationnelle de par mon éducation, j'avais du mal à laisser passer mes émotions. Et avec Michel, j'ai appris. Et maintenant, je peux communiquer aussi, ressentir les émotions, ressentir quand vous ressentez quelque chose et tout ça, et l'exprimer. Parce que ressentir, c'est une chose, mais l'exprimer, en parler, vous voyez, c'est ça qui permet l'échange correct entre un homme et une femme. C'est de l'exprimer. Et quand la femme se met à la portée de l'homme pour comprendre les choses rationnelles, mon épouse a fait beaucoup d'efforts pour me suivre, pour comprendre les choses que j'expliquais, mais s'intéresser, elle a cherché des choses très très rationnelles, et elle est capable aujourd'hui de suivre une conversation que je tiens avec elle sur le plan rationnel. Vous voyez, parce que nous avons besoin de cette communication. S'il y a des cloisons étanches entre l'homme et la femme, ça ne peut pas aller. Il y aura forcément des distances, et à un moment donné, ça peut se terminer par un divorce, qu'on voit même chez les pasteurs qui, parfois, lorsqu'ils arrivent en retraite, eh bien, ils finissent par divorcer parce qu'ils n'ont plus rien à communiquer. Il faut communiquer. Une bonne communication est à la base d'un bon couple, à base d'une bonne église, à base d'une bonne union d'église, etc., etc. Une bonne société. Amen. Et ces modèles-là, nous les trouvons dans la Trinité, dans le Père, le Fils, l'Esprit, qui communiquent sans arrêt, où le conseil de Dieu est actif, où l'Esprit, eh bien, donne son avis au Père, et le Père donne la mission à son Fils. Et le Fils répond en répondant à cette mission, parce qu'il est convaincu que c'est une mission qui est utile. La croix était utile. Il savait que l'homme ne pouvait pas être sauvé sans la croix. Et donc cette compréhension, ce retour, qui est d'un aspect féminin, et la direction, la stratégie, on va le faire, on va détruire l'ennemi, on va faire telle et telle action de justice, etc. Ça, c'est le Père avec l'Esprit. Amen. Donc, là derrière, il y a toutes les implications, toutes les conséquences des enseignements qu'on va avoir aussi dans les mois qui viennent sur nos façons de faire dans chacune de nos vies. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as créé le genre masculin, féminin. Seigneur, il se trouve même en toi, dans cette merveilleuse relation de la Trinité que nous pouvons, Seigneur, simplement admirer, mais que nous ne pouvons jamais copier, Seigneur, parce qu'elle est en dehors de notre portée. Mais Seigneur, il nous transcende, elle nous aide à mieux comprendre comment nous devons changer, comment nous devons, Seigneur, être transformé, que ce soit en tant qu'homme, en tant que femme. Seigneur, nous avons besoin de développer ces relations, Seigneur, avec nous-mêmes, être, Seigneur, rétabli dans notre masculinité et notre féminité, et pouvoir vraiment être image de Dieu. Que dans nos couples, Seigneur, nous pouvons être rétablis dans notre masculinité, féminité, Seigneur, respectives, et développer une bonne communication. Seigneur, je te prie pour ces communications, qu'elles puissent se rétablir là où elles ont été brisées, qu'elles puissent s'améliorer là où elles existent, qu'elles puissent se parfaire, Seigneur, là où elles ont déjà commencé à être. Afin que, Seigneur, cette Église puisse avoir des couples qui soient solides, qui ne puissent résister à l'épreuve, Seigneur, de cette vague qui déferle sur le monde, qui veut amener des théories les unes après les autres, qui sont toutes des échecs. Seigneur, toi seul, tu es celui qui peut nous rétablir dans notre véritable identité. Et nous te prions pour cela, de le faire, Seigneur. Et qu'à l'issue de ces vacances aussi, Seigneur, et des couples qui puissent se porter mieux, Seigneur, parce qu'ils ont commencé à communiquer véritablement entre eux, prier entre eux, prier, Seigneur. La prière est au centre de cette communication avec toi. Seigneur, je te prie afin que tu bénisses cette assemblée, tu bénisses, Seigneur, les frères et sœurs et surtout les couples, Seigneur, afin qu'ils puissent développer ces relations et être à ta gloire. Seigneur, nous comptons sur toi, sur ton secours, sur ta grâce, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.